Chapitre 9, où Concha Pérez subit sa troisième métamorphose. C'était trop. Désormais, je voyais clair dans cette petite âme de rouée. J'avais été mystifié comme un collégien, et j'en restais confus, encore plus qu'affligé. Rayant de ma vie passée la perfide enfant, je fis effort pour l'oublier du jour au lendemain, par un coup de volonté, une de ces intentions paradoxales dont les femmes escomptent toujours le fatal avortement. Je partis pour Madrid, décidé à me prendre pour maîtresse au hasard, la première jeune femme qui attirerait mes yeux. C'est le stratagème classique, celui que tout le monde invente et qui ne réussit jamais. Je cherchais de salon en salon, puis de théâtre en théâtre, et je finis par rencontrer une danseuse italienne, grande fille aux jambes musclées, qui aurait été une fort jolie bête dans les boxes d'un harem, mais qui ne suffisait sans doute point aux qualités qu'on attend d'une amie unique et intime. Elle fit de son mieux, elle était affectueuse et facile. Elle m'apprit des vices de Naples, dont je n'avais nulle habitude, et qui lui plaisaient plus qu'à moi. Je vis qu'elle s'ingéniait à me garder auprès d'elle, et que le souci de son existence matérielle n'est pas le seul motif de ce zèle tendre et ardent. Hélas, que n'ai-je pu l'aimer ? Oh, je n'avais aucun reproche à lui faire. Elle n'était ni infidèle ni importune. Elle ne paraissait pas connaître mes défauts. Elle ne me brouillait pas avec mes amis. Enfin, ses jalousies, toutes fréquentes qu'elles fussent, se laissaient deviner, ne s'exprimaient point. C'était une femme inappréciable. Mais je n'éprouvais rien pour elle. Pendant 2 mois, je m'astreignis à vivre sous le même toit que Julia, dans son air, dans sa chambre de la maison que j'avais louée pour nous deux au bout de la rue Lope de Vega. Elle entrait, passait, marchait devant moi, je ne la suivais pas des yeux. Ses jupons, ses maillots de danseuse, ses pantalons et ses chemises traînaient sur tous les divans. Je n'étais même pas atteint par leur influence. Pendant 60 nuits, je vis son corps brun allongé près du mien dans une couche trop chaude, où j'imaginais une autre présence dès que la lumière s'éteignait. Puis je me sauvais, désespérant de moi-même. Je revins à Séville. Ma maison me parut mortuaire. Je partis pour Grenade, où je m'ennuyais, pour Cordoue, torride et déserte, pour l'éclatante Jerez, toute pleine de l'odeur de ses celliers à vin, pour Cadiz, oasis de maison dans la mer. Le long de ce trajet, monsieur, j'étais guidé de ville en ville, non pas par ma fantaisie, mais par une fascination irrésistible et lointaine, dont je ne doute pas plus que de l'existence de Dieu. 4 fois, dans la vaste Espagne, j'ai rencontré Concha Pérez. Ce n'est pas une suite de hasard. Je ne crois pas à ces coups de dés qui régiraient les destinées. Il fallait que cette femme me reprît sous sa main et que je visse passer sur ma vie tout ce que vous allez entendre. Et en effet, tout s'accomplit. Ce fut à Cadiz. J'entrais un soir dans le baile de là-bas. Elle y était. Elle dansait, monsieur, devant 30 pêcheurs, autant de matelots et quelques étrangers stupides. Dès que je la vis, je me mis à trembler. Je devais être pâle comme la terre, je n'avais plus ni souffle ni force. Le premier banc près de la porte fut celui où je m'assis, et les coudes sur la table, je la contemplais de loin comme une ressuscitée. Elle dansait toujours, haletante, échauffée, la face pourpre et les seins fous, en secouant à chaque main des castagnettes assourdissantes. Je suis certain qu'elle m'avait vu, mais elle ne me regardait pas. Elle achevait son boléro dans un mouvement de passion furieuse, et les provocations de sa jambe et de son torse visaient quelqu'un au hasard dans la foule des spectateurs. Brusquement, elle s'arrêta au milieu d'une grande clameur. « Qu'elle est mignonne !» criaient les hommes. « Allez, petite, allez, allez, encore !» Et les chapeaux volaient sur la scène. Toute la salle était debout. Elle saluait encore essoufflée avec un petit sourire de triomphe et de mépris. Selon l'usage, elle descendit au milieu des buveurs pour s'attabler en quelque endroit pendant qu'une autre danseuse lui succédait devant la rampe. Et sachant qu'il y avait là, dans un coin de la salle, un être qu'il adorait, qui se serait mis sous ses pieds devant la terre entière et qui souffrait à crier, elle alla de table en table et de bras en bras sous ses yeux. Tous la connaissaient par son nom. J'entendais des Conchita qui faisaient passer des frissons depuis mes orteils jusqu'à ma nuque. On lui donnait à boire, on touchait ses bras nus. Elle mit dans ses cheveux une fleur rouge qu'un marin allemand lui donna. Elle tira la tresse de cheveux d'un banderillo qui fit des pitreries. Elle feignit la volupté devant un jeune fat assis avec des femmes et caressa la joue d'un homme que j'aurais tué. Les gestes qu'elle fit pendant cette manœuvre atroce qui dura 50 minutes, pas un seul n'est sorti de ma mémoire. Ce sont des souvenirs comme cela qui peuplent le passé d'une existence humaine. Elle visita ma table après toutes les autres parce que j'étais au fond de la salle, mais elle y vint, confuse ou jouant la surprise. Oh, nullement vous ne la connaissez pas. Elle s'assit en face de moi, frappa dans ses mains pour attirer le garçon et cria « Tonio, une tasse de café !» Puis avec une tranquillité exquise, elle supporta mon regard. Je lui dis, d'une voix très basse, « Tu n'as donc peur de rien, Concha ? Tu n'as pas peur de mourir ? Non, et d'abord ce n'est pas vous qui me tuerez. Tu m'en défies ? Oh, ici même et où vous voudrez, je vous connais, Don Matteo, comme si je vous avais porté 9 mois. Vous ne toucherez jamais à un cheveu de ma tête, et vous avez raison, car je ne vous aime plus. Tu oses dire que tu m'as aimé ? Croyez ce qu'il vous plaira, vous êtes seul coupable. » C'était elle qui me faisait des reproches. J'aurais dû m'attendre à cette comédie. « 2 fois, repris-je, 2 fois, tu m'as fait cela. Ce que je te donnais du fond de mon cœur, tu l'as reçu comme une voleuse, et tu es parti sans un mot, sans une lettre, sans même avoir chargé personne de me porter ton adieu. Que je fais pour que tu me traites ainsi ?» Et je répétais entre mes dents, « Misérable, misérable. » Mais elle avait son excuse. « Ce que vous m'avez fait ? Mais vous m'avez trompé. N'aviez-vous pas juré que j'étais en sûreté dans vos bras et que vous me laisseriez choisir la nuit et l'heure de mon péché? La dernière fois, ne vous souvenez-vous plus? Vous croyez que je dormais, vous croyez que je ne sentais rien. J'étais éveillé, Matteo. J'ai compris que si je passais encore une nuit à vos côtés, je ne m'endormirais pas sans me livrer à vous par surprise. Et c'est pour cela que je me suis enfui. C'était insensé. Je haussais les épaules. Ainsi, voilà ce que tu me reproches, lui dis-je, quand je vois ici la vie que tu mènes et les hommes qui passent dans ton lit. Elle se leva furieuse. Cela n'est pas vrai. Je vous défends de dire cela, Don Matteo. Je vous jure, sur la tombe de mon père, que je suis vierge comme une enfant et aussi que je vous déteste. Parce que vous en avez douté. Je restais seul. Après quelques instants, je partis, moi aussi.